Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonsoir ou bonjour, c'est Paola et bienvenue dans cette nouvelle soirée pyjama. Prends le temps de te poser, cale-toi confortablement dans ton fauteuil ou sous ta couette et c'est parti. Aujourd'hui, on va passer un peu de temps avec Anaïs, c'est une chanteuse londonienne au parcours assez atypique, tu vas voir. Déjà, pour commencer, elle a habité aux quatre coins du monde. Ensuite, elle écrit ses chansons dans plein de langues différentes, avec des influences musicales hyper diverses, hyper variées, allant du R&B à la soul en passant par le jazz. Bref, tu peux aller écouter toutes ses compos, ses musiques sur sa chaîne YouTube Anaïs, ça s'écrit A-N-A-2-I-S, et c'est du pur bonheur pour les oreilles, crois-moi. Et enfin, Anaïs, c'est une artiste qui parle de féminisme, de sororité, de santé mentale, et tout ça, elle l'abordera le 21 avril 2021 en live sur le compte Instagram de Doug Martins, donc vraiment reste aux aguets et je te conseille d'aller écouter ça. Bon, en attendant, on a proposé à Anaïs de commencer le podcast, comme d'hab, avec un Fuck Mary Kill. Entre Nina Simone, Kendrick Lamar, donc deux grandes influences de la musique d'Anaïs, et Alice Walker, qui était une militante afro-féministe très chère à son cœur, qui va-t-elle choisir d'éliminer, d'épouser, et avec qui va-t-elle passer la nuit ?
Déjà, je regrette déjà ce que je vais dire, parce que il n'y a pas de réponse qui serait correcte, mais bon. Donc, Nina Simone. Donc, je passe la nuit, on peut juste passer la nuit, discuter.
Ouais, t'as le droit. Okay. Si tu fais ce que tu veux avec cette femme.
Ouais, peut-être je passe ta nuit avec Nina Simone alors.
Ok.
Et je me marie avec Kendrick Lamar, obviously.
Du coup, Alice Walker, non.
Non, je sais, c'est atroce. Je me sens trop mal, mais je la tue pas, mais.
Non, ouais, on la contacte pas, on va dire ça. Ça te va?
Voilà, on la contacte pas, voilà.
On la contacte pas. Mais elle reste dans nos cœurs.
Ouais, elle reste dans nos cœurs, voilà.
C'est. Mon Dieu. T'as déjà fait auparavant des Fuck Mary Kill pendant tes soirées pyjama? Même pas? T'as déjà fait tes soirées pyjama?
Ouais, peut-être, il y a très longtemps.
Quand t'étais ado, enfant?
Ouais, quand j'étais enfant.
Et t'en. Quand j'étais petite. Et t'en gardes quoi comme souvenir?
Franchement, genre, je pense à une époque où j'allais au Sénégal et on buvait genre du lait à la menthe et je trouvais ça trop bizarre. Genre, maintenant que j'y pense, c'est à ça que le souvenir qui me revient, c'est qu'on faisait fondre des bonbons à la menthe et on les buvait avec du lait. Et
mais on des bonbons, les petits.
Genre les petits cachets, je sais pas comment ça se dit, genre les petits cachets comme ça.
Ok.
Genre, c'est juste du sucre avec de la menthe et c'est un peu dur, transparent.
Ouais.
Anyways, on les mettait dans une poêle.
Mais c'est stylé, je trouve.
Ouais, et en fait, on buvait ça, genre, et on restait debout avec mes cousins, cousines, jusqu'à, je sais pas, 4-5 heures du matin, et on buvait du lait chaud à la menthe.
Ah, c'était du lait chaud?
Ouais.
Parce que je connaissais le lait froid au sirop de menthe, tu sais.
Ah, si, non, ça, non. Non, c'était du lait chaud, genre, comme un chocolat chaud, mais au lieu de mettre du chocolat en poudre, on mettait des bonbons à la menthe.
Moi, je trouve ça fou, en vrai. C'est une recette incroyable.
Mais en vrai, je sais pas pourquoi on faisait ça, et j'ai jamais refait ça depuis, et je sais pas.
Mais c'est les adultes qui vous préparaient ça, ou c'est
non,
vous qui décidiez de...
Non, je crois que c'est nous, on a fait ça.
Mais trop bien.
Ouais.
Et toute la nuit, vous buviez ça sans être malade le lendemain?
Non, bizarrement.
Bravo.
Parce que moi, je bois pas trop le lait comme ça maintenant, mais bon.
Ok, ouais. Bah trop bien. Bah du coup, ça va, t'es un peu une habituée des soirées pyjama, même si ça fait longtemps.
Ouais, un peu. J'aimerais bien en faire plus, en vrai.
Ah ouais?
Ouais.
Avec tes amis adultes, du coup.
Ouais, ça serait bien.
C'est bien aussi, les soirées pyjama entre adultes.
Ouais, ça serait trop bien, parce que maintenant, les soirées pyjama, c'est juste rester au studio jusqu'à 8h du matin. Mais c'est pas la même chose.
Ah oui, quand t'enregistres,
Bah
oui, parce que t'es chanteuse, c'est quand même important de le préciser.
Ouais.
Donc des nuits au studio, à mon avis, t'en as passé plein.
Ouais.
Mais c'est pas les meilleures soirées pyjama quand même, le studio
Ouais, surtout quand c'est des studios résidences où on dort là-bas et après c'est super cool. Genre, on peut vraiment être en pyjama et aussi rester debout et aussi parler.
Ça existe et... ça, je savais même pas, tu
ouais,
vois.
Ouais, si, c'est un truc, j'adore. C'est la meilleure façon de faire des albums, je trouve.
En fait, tu restes par exemple une semaine au même endroit.
Ouais,
tu et t'as des lieux pour dormir et tout, mais t'as un studio d'enregistrement.
Exactement.
Tu sais, je croyais que c'était que les théâtreux qui faisaient ça ou les comédiens, enfin des résidences artistiques, tu vois. Ouais. Mais je savais pas du tout que ça se faisait en musique.
Ouais, ça se fait. Et c'est, pour moi, c'est la meilleure façon de travailler. Parce qu'en fait, on est tous ensemble. On partage vraiment genre des bons moments, des journées entières. On laisse tout derrière nous. Tu sais, les problèmes personnels, la vie en dehors du studio. Et on vient, on peut passer une semaine, deux semaines, vraiment juste être dans la musique. On peut, si on se réveille à 3h du matin, on a une idée, on peut descendre, l'enregistrer. Donc pour moi, c'est un peu idéal.
Ouais, ça a l'air incroyable en vrai. Ouais. Trop bien. Bah écoute, je te souhaite d'en faire plein dans ta vie londonienne, du coup, à ce que j'ai compris. Ouais. C'est trop stylé. On va passer à la prochaine étape.
Okay.
Est-ce que t'es stressée plus que le fuck Marie Kill?
Non, là, je me sens mieux.
tu te sens mieux?
Oui.
Ok, trop bien. La prochaine étape, c'est t'as un bol à questions devant toi, à côté des nombreux bonbons qu'on a, n'hésite pas à piocher. Il y a des schtroumpfs, des M&M's.
Je vais prendre un schtroumpf tout de suite.
Vas-y. Je t'en prie.
Ça va trop me mettre dans la bonne humeur.
Ça, c'est grave, les bonbons de pyjama party, par contre. On est d'accord ou pas? Voilà. Et devant toi, à côté de tous ces bonbons, il y a donc le bol à questions. Avec des questions qui peuvent être très générales et des questions qui peuvent être très précises sur ton vécu, etc., ton parcours. Et donc, tu vas piocher ces petites questions et y répondre. C'est quand tu veux.
Je commence?
Ouais.
J'espère que ça sera une bonne question.
Moi aussi, je croise les doigts à chaque fois pour la première.
le titre du film qui raconterait... ta plus grande histoire d'amour facile.
C'est
genre
vrai.
Genre pour moi, enfin un peu facile. C'est pas exact, mais je dirais Amélie.
Amélie Poulain ?
Ouais.
Ah ouais ?
Oui, parce que genre elle est un peu bizarre comme moi et tu sais, genre il n'y a rien qui arrive dans sa vie, puis elle se mêle de la vie des autres, tu vois, et elle a un peu genre le cœur généreux. Puis elle admire quelqu'un qu'elle va peut-être jamais rencontrer, tu vois. C'est un peu mon style.
C'est vrai. c'est marrant, personne ose se comparer à Amélie Poulain. En général, c'est un peu une personne un peu bizarre, qu'on comprend pas trop.
Non mais vraiment, je suis obsédée par ce film et je l'ai regardé tellement de fois. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu fais que regarder ce film? Genre, pourquoi tu l'aimes tant que ça? Et je me suis dit, c'est parce que je pense que vraiment, je m'identifie avec elle un peu. Juste sa façon de voir les gens de loin et... je sais pas.
Je trouve ça assez stylé, Amélie Poulain. En plus, c'est un film qui est hyper particulier, qui te met dans un mood hyper particulier. Mais c'est assez cool aussi de se reconnaître dans ce personnage-là, parce que pour le coup, c'est haut en couleur, quoi.
Ouais.
Trop bien.
Ouais, j'adore trop comment elle aime bien aider les gens. Et puis aussi, elle prend un peu des vengeances quand elle voit des gens méchants, tu vois. Et moi, je suis un peu comme ça, genre... Enfin, je
suis grosse vengeresse.
Mais genre, dans ma tête, je me dis non, mais il faut qu'il se comporte mieux que ça, c'est pas bien.
Ouais.
Donc voilà.
Attention au karma, sinon.
Ouais, exactement.
Ok, bah trop bonne réponse. Si, j'adore. Tu peux piocher une autre question.
Okay.
Si elle est aussi bien que celle-là, je pense que ça va être
voir.
Cool.
J'ai eu de la chance, je crois, avec la première, c'est pour ça. Ouh, tu as beaucoup voyagé et tu as habité dans 6 villes différentes. Ton lieu préféré dans chacune d'entre elles. Waouh. Impossible.
C'est vrai?
Ouais, parce que. Ben déjà, à Toulouse, lieu préféré. Vraiment, je sais pas.
T'as habité combien de temps à Toulouse, du coup?
Ben, j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans. Peut-être que c'était genre. Il y a un parc, je sais pas comment il s'appelle. C'est à Blagnac, là où j'ai. Moi, je suis née à Blagnac. Enfin, je suis née à Toulouse, mais j'ai grandi à Blagnac, là où il y a l'aéroport.
Je connais pas du tout cette région. Mais.
Oh, ok, bon. J'ai compris que les gens de Paris, ils s'en foutent de Toulouse et tout.
Non, trop pas, j'adore. En plus, je suis pas de Paris, moi, là-bas, tu sais.
Ah oui?
Mais okay. Non. Mais Toulouse, je connais pas du tout. Du coup, Blagnac, c'est une petite ville à côté, c'est ça?
Ouais, c'est là où il y a l'aéroport, en fait, et c'est là où il y a l'Airbus.
Ok.
Et ouais, bon, voilà. Bon, c'était pas. Ouais, j'ai vraiment pas une bonne réponse en plus. Mais je sais qu'il y avait un parc où je traînais souvent.
Ok, le parc de Blagnac.
Ouais, voilà.
Vas-y.
Ensuite, j'ai vécu à Dublin.
Ok.
Mon lieu préféré à Dublin. Alors là, je sais plus. En plus, j'ai trop eu de mauvaise mémoire du passé. Genre, j'ai du mal. J'essaie de me rappeler un peu de mon enfance. Mais j'ai l'impression que j'ai tout oublié depuis l'âge en dessous de 14 ans.
Parce que t'as vécu combien de temps à Dublin, du coup, de tes 10 ans à tes.
Ouais, j'ai vécu 2 ans.
Ok, donc 10 ans à 12 ans. Bah, c'est vrai que c'est des âges, c'est quand tu bouges beaucoup en général, t'as du mal à t'accrocher.
Ouais. Mais et c'était un peu traumatique, je sais pas si ça se dit en français,
traumatisant.
Traumatisant, ouais. Oui, c'était un peu traumatisant parce que je parlais pas l'anglais et puis je suis quand même quelqu'un assez réservé, genre un peu timide et j'étais jeune, je sais pas, c'était vraiment un choc. Bien sûr, je regrette pas, j'admire le fait que ma mère, elle nous a fait voyager dans tous ces pays et tout, mais. D'un côté, ça a été un peu difficile. Et surtout, quand j'étais en Irlande, j'avais une période où j'avais un peu arrêté de parler. j'étais fermée en fait.
Et ta maman, elle faisait quoi pour que vous bougiez autant? C'était du boulot, c'était...
Non, c'est juste, je crois qu'elle voulait qu'on habite aux États-Unis, mais elle avait l'occasion de faire un transfert à Dublin. Comme ça, on pouvait déjà apprendre l'anglais. Et ensuite, de là, on irait aux États-Unis. Mais en fait, vu que la transition en Irlande, c'était pas forcément facile, quand elle est partie aux États-Unis, elle a dit « Bon, tu vas aller chez ton père pendant un an. » Et là, je suis partie au Sénégal pendant un an. Donc voilà, après l'Irlande, je suis partie au Sénégal, à Dakar. Et ensuite, après Dakar, je suis partie à Oakland,
Californie. Qui est en Californie.
Voilà. Okay. Et en plus, c'est bizarre parce que même en Californie, on a vécu dans 5 villes différentes, rien que dans le nord de la Californie.
Genre ouais, pendant
les 4 ans. Genre, oui, on va dire que tous les 1 an, maximum 2 ans, on changeait d'appartement.
Ah ouais.
Donc c'était un peu, je sais pas, déstabilisant.
ouais, non mais attends, tu m'étonnes, voilà. Parce que du coup, t'as quel âge là du coup?
Moi là j'ai 28 ans.
Ok, ah ouais, donc en fait pendant 13 ans, t'as pas arrêté quoi. Ouais, genre voilà. Tu bougeais tout le temps.
Exactement. Donc jusqu'à l'âge de 18 ans, je voyageais comme ça tout le temps. Et ensuite, après je suis partie à New York, j'ai fait l'université à New York.
Ça devait être
Ça c'était cool. Ouais, c'était cool, aussi challenging définitivement. Et ensuite, après que j'ai fait l'université de New York, c'est là que je suis partie à Londres.
Et que tu t'es arrêtée pour te poser et construire ta carrière musicale comme tu le fais aujourd'hui.
Exactement.
Et des lieux t'ont marqué du coup, parce que bon, France, Irlande, t'avais pas forcément de souvenirs, mm-hmm. mais du coup, Dakar, la Californie, New York, il y a des lieux qui te reviennent, ou des souvenirs. Hein, tu peux même avoir des souvenirs en particulier.
Non, tout à fait. Surtout à New York, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Harlem.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, j'aime trop Harlem, mais j'ai l'impression que des fois, je recherche un peu cette énergie dans les villes différentes où je vais. Et par exemple, là, j'habite à Londres, mais j'habite à Peckham, c'est dans le sud de Londres, et il y a vraiment cette même énergie que je retrouvais à Harlem, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que Oakland, c'était une ville un peu difficile. Enfin, c'est vrai qu'on, des fois, on se baladait, on allait à San Francisco, des choses comme ça, mais... Et puis aussi, on habitait dans une petite ville super cool aussi, juste à la fin, genre les deux dernières années où j'étais en Californie. On habitait dans une petite ville qui s'appelle Alameda. Et c'était juste, on passait un tout petit pont. Genre, par exemple, on avait Oakland, après il y avait le Chinatown. Et on passait un tout petit pont. Et puis là, on était sur une toute petite île qui était accrochée à Oakland, en fait. Et ça s'appelait Alameda. Et il y avait une plage. Donc c'était un peu bizarre. Enfin, mais cool.
Ouais, ça, c'est une image comme ça, si tu restes. Ouais. Ça, c'était du coup quand t'étais à New York.
Non, j'étais au lycée.
Ah oui, au lycée, donc c'était vraiment en Californie. Ouais. Je me perds, moi les noms, je connais aucun quartier de aucune ville des États-Unis.
Ouais.
Ça doit être fou d'autant voyager, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, je sais pas trop où est-ce que je dois être.
Ouais.
Donc j'ai un peu du mal à me situer dans le monde. Et maintenant que genre, je vieillis, je me dis, ben, un jour, j'aimerais bien décider où est-ce que je vais m'installer. Mais en fait, j'ai presque pas de raison d'aller quelque part. Genre, j'ai pas vraiment une vraie raison de rester à Londres ou même une vraie raison de venir. Genre, quand je viens à Paris, des fois, je comprends pas forcément tout la façon que les gens y parlent ou bien ils vont avoir des mots. Comment ça se dit, lingo? Je sais pas comment on dit en français, mais.
Je sais pas, du
slang, quoi. Tu sais, quand les gens parlent, par exemple, verlan, ils ont des façons de s'exprimer.
L'argot?
Non, le lingo. Like, it's like.
Parce que l'argot en français, c'est. C'est un langage des rues, un peu des quartiers.
Oui, voilà.
Ouais,
oui.
C'est l'argot en français.
Voilà. Donc, voilà, des fois, j'entends les gens parler, puis en fait, je sais pas forcément qu'est-ce qu'ils disent. Tu vois, même si je comprends le français, je vais me dire, mais en fait, vous parlez de quoi là? Ah oui, ça veut dire ça. Et à Londres, c'est un peu la même chose. Ils ont des slangs qui viennent de Jamaïque, tu vois, ou des choses comme ça, où genre, je suis encore en train de les apprendre. Donc, j'ai un peu cette. J'aime ça que je flotte un peu dans le monde, en fait.
Ouais, t'as pas vraiment de pied à terre, en fait.
Voilà.
Ok, c'est vrai que ça t'a créé des soucis, pas des soucis, mais des difficultés pour construire ton identité, pour te définir même toi, aux autres et tout pour toi-même.
Ouais,
t'as ressenti des fois ça?
Mais en fait, je pense que surtout dans la musique, c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps de vraiment genre, trouver mon univers, parce qu'il y avait tellement d'influences différentes et à chaque fois, tu essaies de te retrouver un peu dans les nouveaux environnements. Et en fait, le truc, c'est qu'on change beaucoup. Donc je veux dire, à chaque fois qu'on est dans une nouvelle situation avec des nouvelles personnes, on s'adapte un peu et notre personnalité, elle change, elle se morphe, je sais pas si ça se dit. Et donc, j'ai l'impression que moi, j'ai un peu eu ça. Et donc, ça m'a pris un peu de temps de me dire, ok, est-ce que, même maintenant, des fois, je chante un peu en français et je sais que je parle pas français parfaitement, mais j'utilise le langage de la façon où pour moi, c'est logique pour moi. Et je me donne un peu cette liberté de me dire, je peux m'exprimer dans plusieurs langues. Genre, des fois, je chante en portugais ou bien... Je chante plusieurs choses, en fait.
T'en as fait une force musicale, en fait.
Oui, voilà, exactement. Et de se dire, pareil, avec les influences que je peux prendre des influences de la musique de l'Afrique de l'Ouest, ou je peux aussi prendre des influences sur la chanson française, ou j'écoutais beaucoup de gospel music quand j'étais en Californie, tu vois. Donc il y a toutes ces choses-là qui viennent et qui se...
Ouais, ça construit une légitimité, en fait, voilà. Comme tu as vécu dans plein d'endroits, ouais. De sentir légitime, de piocher, en fait, un petit peu dans ton vécu,
ouais.
À chaque fois.
Ouais,
c'est exactement. Top, c'est ce qui fait ta musique, que ta musique est riche, en fait, ouais, finalement. Voilà. Allez, Anaïs.
Mais ça prend du temps de vraiment trouver, OK, comment est-ce que je vais faire ça de la meilleure façon, de mieux le présenter, en fait.
OK. Voilà. Super réponse.
Ah oui, merci beaucoup. Ah, on était en train de faire une question.
T'inquiète, tu peux en piocher une autre, n'hésite pas.
Visualise ta boîte à secrets. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Ça, c'est ma question préférée et elle vient souvent, donc je suis trop contente à chaque fois.
Mais secret souvenir. Est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs dedans ? T'en mets plusieurs, comme ça, c'est sûr qu'on va la piocher.
Non, je triche pas. Pas encore, mais c'est une bonne idée. Je retenais pour le prochain.
Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à secrets ? Souvenir secret. Wow, je trouve ça dur. Vu qu'on vient juste de parler de plein de souvenirs, maintenant ouais. J'ai du mal. Je pense que c'est peut-être... je sais. Je suis hyper accro à les photos anciennes. Aux photos anciennes. Genre, je me balade toujours avec des photos des années genre 90 et tout. Et je les amène partout avec moi et je sais pas si c'est bizarre, mais genre je me balade souvent avec mon carnet intime et dedans j'ai plein de photos. Et puis à la maison j'ai une grosse boîte avec plein de photos et genre je les adore trop, genre, et je sais pas pourquoi, peut-être ça me ramène des souvenirs ou ça me donne c'est la chose, parce qu'en fait quand on déménage beaucoup et qu'on a plusieurs, je veux pas dire plusieurs identités, mais on jette beaucoup de choses, je garde pas beaucoup de choses en fait, cette vraie boîte avec toutes ces photos, c'est comme si c'était une petite capsule de mon existence, en fait.
Ouais.
Il y a tous les gens que j'aime dedans et des photos anciennes, et je sais pas, je les adore.
C'est trop beau. Ouais. C'est trop beau. Mais je comprends de ouf parce que j'ai beaucoup déménagé aussi, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai que, par exemple, on n'a pas de chambre à nous quand on déménage beaucoup.
Oui, exactement.
Tu vois,
oui.
Ça, moi,
genre
c'est un
poster,
truc,
des trucs comme ça que les gens ont. Oui.
Moi, j'avais pas non plus, tu vois, parce que location, parce qu'on va partir dans 3 mois, donc à quoi ça sert.
Exactement.
On ne défait pas nos cartons. Enfin,
ouais.
Et du coup, on a souvent cet objet-là,
ouais.
Ou des objets, mais vraiment précis, qu'on va garder et porter partout avec nous.
Ouais, exactement.
Et je trouve ça très fort. En plus, ça, du coup, tu le transportes tous les jours sur toi, donc c'est encore mieux, quoi.
Ouais.
C'est ta petite boîte à secrets partout, quoi.
Exactement. Et à chaque fois, ça me réconforte, genre si je suis pas dans une situation. Difficile, je peux le sortir et je me sens un peu mieux.
C'est des photos de tes proches et de toi-même,
ouais,
du coup.
Ouais, exactement, photos de famille.
C'est en plus les photos à l'argentique, c'est trop beau.
Ouais.
Ça manque un peu.
Moi aussi, trop.
Ah ouais,
trop.
Franchement.
Et je sais pas, je me demande comment ça va être dans le futur, ou maintenant qu'on a toutes ces photos digitales, comment les prochaines générations, comment elles vont vivre ça, tu vois.
Ouais. Moi aussi, je me demande, parce que même les pellicules, ça se fabrique plus tellement et tout. Et si ça disparaît, c'est trop triste, parce que c'est quand même différent d'avoir une photo digitale, enfin en face de soi, sur un écran, et de pouvoir la tenir entre les mains et la voir vieillir, tu vois.
C'est ça.
C'est ça qui est dommage.
Ouais. Tu peux acheter une autre ?
Ouais.
Donc, le 21 avril 2021. Waouh, 21 avril 2021.
Ouais.
On pourra te voir en live sur le compte Instagram de Doc Martins. Pourquoi et comment ce projet s'est-il concrétisé ? Donc oui, le projet Doc Martins, je suis hyper pressée de le partager avec les gens, parce que ça fait quand même peut-être 3 mois que je travaille dessus.
Ok.
Et en fait, il s'est concrétisé en fait à partir d'un album que j'ai commencé à écrire, enfin que j'ai écrit, qui est venu d'une période vraiment difficile que j'ai vécue dans l'industrie de la musique. Parce que moi, dès que je suis arrivée à Londres, j'ai signé un contrat, j'étais avec une grosse maison de disques, avec un gros manager, avec tout gros. Et ça s'est vraiment très mal passé. Et c'était hyper difficile pour moi. Et j'ai vraiment souffert pendant genre 4 ans. Et éventuellement, j'ai enfin réussi à me libérer de cette situation. Et maintenant, je fais tout de façon indépendante. J'ai pu vraiment regagner confiance en moi-même. J'ai appris énormément de choses. Mais j'ai aussi beaucoup souffert dans ma santé mentale. On a vraiment beaucoup souffert.
Et qu'est-ce qui faisait que c'était si difficile pour toi ? C'était la réception de ta musique par les gens avec qui tu travaillais ou
c'était que, je ne peux pas vraiment traduire en français, mais il y avait beaucoup de genre gaslighting and, people who are very manipulative.
Des manipulateurs,
des gens qui veulent te... C'était vraiment, en anglais, on va dire, oppressive.
Oppressant.
Voilà.
Okay. Je traduis pour nos auditeurs. Oui. S'il y a des nuls en anglais, pour moi, niveau 1, voilà.
Je suis désolée parce que j'ai du mal avec le français.
T'inquiète, moi, c'est l'anglais. Donc,
toutes les deux ensemble, on va réussir.
C'est ça, on va y arriver.
Donc oui, c'était pour moi, psychologiquement, c'était très, très, très difficile. Parce que c'est comme si on était toujours en train d'essayer de contrôler ma réalité. Et vraiment, je me sentais perdue. Et... Enfin, on sait que l'industrie de la musique, c'est pas. Je pense qu'en France, c'est vraiment différent, mais dans les pays en dehors de la France, surtout en Angleterre, aux États-Unis, les contrats, ils sont vraiment très durs pour les artistes et y a souvent des questions d'ego, des choses comme ça. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était juste quelque chose qui a été hyper dur pour moi. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps de la thérapie, tout ça, pour me dire qu'en fait, je peux sortir de cette situation, même s'ils font comme si j'ai pas le droit. Je peux réussir de sortir de cette situation. Et donc, j'ai écrit un album qui est un peu... qui touche sur la trajectoire que j'ai vécue. C'est pas forcément spécifique à l'histoire elle-même. Donc, je raconte pas l'histoire dans les chansons, mais je parle des sentiments que j'ai ressentis. Genre des moments où je me suis sentie isolée ou bien... contrôler ou bien manipuler, ou bien les moments où j'ai commencé à avoir de l'espoir, comment j'ai pu peut-être à un moment me réaliser que j'avais encore un choix et que ces gens, ils n'avaient pas contrôle sur ma vie, même s'ils essayaient de me faire croire qu'ils l'avaient. Il y a des peurs, on se dit, ah si je quitte ça, je vais tout perdre, je ne vais pas avoir de logement, je vais me retrouver, on ne sait pas, à la rue. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pouvaient venir en tête. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, j'ai quand même le choix. Et c'est ce que j'ai éventuellement pu faire. Et maintenant, je recommence à zéro. Mais je le fais d'une façon où je me sens beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, je trouve que tout se passe tellement mieux. C'est vraiment différent. C'est comme jour et nuit avec avant. Et tout ça pour dire que j'ai vraiment appris tellement de choses sur l'importance de la santé mentale et comment prendre soin de soi-même. Et j'ai aussi beaucoup pensé au fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas accès à la thérapie. Et aussi, des fois, culturellement, c'est moins accepté d'en parler. Parce que pour beaucoup de cultures, c'est... Il faut déjà être heureux de pouvoir manger, être nourri. Voilà. Donc, après, la santé mentale, c'est genre la dernière chose. Genre, pourquoi tu te prends la tête, vas-y,
c'est
tu continues.
C'est égoïste.
Voilà. Okay. Et donc, j'ai voulu faire un projet qui touchait un peu dessus et qui allait apporter un peu de... des ressources ou bien des... qui pouvaient apporter de la valeur aux gens qui en ont besoin, qui n'ont pas accès par exemple à la thérapie ou qui ont peut-être peur de commencer à faire de la thérapie ou qui n'ont pas les moyens, je sais pas. Et donc j'ai voulu créer un petit jeu de cartes avec l'aide de... J'ai travaillé avec des psychologues super. Il y a une dame qui s'appelle Stella Tiendré-Beogo. Elle fait partie d'un collectif qui s'appelle Collectif Psy Noir. Et ils offrent des services gratuits, je crois, tous les samedis, d'ailleurs. Et ensuite, il y a Sana Hassan. C'est aussi une... en anglais, on va dire... Community and Liberation Psychologist. Et donc, toutes les deux, plus moi et aussi Lossa Pardo, on a créé, en fait... Lossa Pardo, c'est un peintre. On a créé un jeu de cartes où, en fait, on propose sur 30 cartes des questions réflexives, un peu de psychoéducation et des méthodes pour la gestion. Gestion émotionnelle, des choses comme ça. Donc, voilà. Et donc, en fait, on a proposé tout ça à Doc Martens, donc de pouvoir créer ce projet. Et ensuite, on a créé une petite conversation, table ronde, avec trois femmes vraiment géniales qui sont venues parler un peu d'elles, de leur relation avec la santé mentale et comment elles... Désolée, parce que j'ai
non, t'inquiète,
vraiment du mal à le dire en français. J'essaie de me débrouiller, mais... Donc on a passé un peu ce temps au Jaja ensemble pour discuter de la santé mentale et comment elles approchent la santé mentale dans leur travail et voilà. Donc on a eu des thèmes un peu spécifiques avec elles.
Ok, trop bien. Et ces trois femmes-là, il y a Charlotte Abramoff,
je crois
que c'est ça.
Charlotte Abramoff, on a Déborah Lukumuena et on a Néhémie Lemal.
Ok. Voilà. Et donc ça sera le 21 avril sur la chaîne Insta de Doc voilà. Martens, si je viens de créer en live.
Ouais, exactement.
Trop intéressant.
J'ai beaucoup élaboré, je suis désolée.
Non, mais t'inquiète, tu fais bien, c'est super. Et moi, le jeu de cartes, ça m'intrigue de ouf, parce que c'est vrai que ça existe beaucoup pour la méditation, enfin, mm-hmm. le genre de trucs, mais que mm-hmm. la santé mentale, c'est comme ça un peu tabou.
Ouais.
Il y a moins d'efforts pour que ce soit ludique, en fait.
Ouais, exactement.
Et du coup, je trouve ça, on a hâte de voir à quoi ça va ressembler.
Ben, c'est ça le truc, c'est que moi, je me suis dit que quand j'ai fait la thérapie, j'en ai fait que peut-être 10 séances. Et après, j'avais tous ces petits outils que je peux utiliser dans des fois quand je passe des moments difficiles, je me dis, ah bon, c'est ça qui se passe, ou bien fais ça, tu vois. Et en fait, je me dis, ben, si quelqu'un avait accès à ça, sans avoir la thérapie, déjà, ça aiderait. Mm. Donc, j'ai voulu juste qu'on donne un peu ces informations
aux gens. Rendre accessible, voilà. En fait, les outils. C'est
oui,
ça. Parce
voilà.
Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les
tout
sous.
Tout le monde n'a pas 80 euros par session pour...
Ouais.
Voilà.
Complètement. Et c'est pas remboursé toujours en plus.
Ouais, en plus.
Les psychologues ne sont pas remboursés en France.
Ah là.
Ouais. Ok, bah, hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse aussi. Et puis on a hâte de te voir dans ce projet du coup.
Ouais, j'espère que vous allez aimer.
Mais oui, évidemment, nos auditrices et auditeurs vont forcément aimer. Mademoiselle aussi. Tu peux piocher une autre question si tu veux.
Qu'est-ce que ton signe astrologique dit le mieux de toi et à quel moment c'est du bullshit?
J'avoue que j'aime bien. T'es quoi, toi, comme signe?
Moi, je suis taureau.
Alors, les taureaux, vous êtes des personnes à fort caractère qui foncent droit dans le but. Je crois que c'est un peu l'idée, hein, vous foncez tête baissée.
Ouais.
Ça te ressemble plutôt?
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Genre, moi, depuis le jour où j'ai décidé que j'allais faire de la musique, j'ai même pas, genre, reconsidéré la chose. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai pas du tout hésité. Genre, j'y vais à fond. Et des fois, c'est vrai qu'il faut un peu, je sais pas, prendre un peu de recul.
Ouais.
Donc, ouais, pour moi, je trouve que. Franchement, quand je lis les trucs taureaux, je me dis, c'est vraiment moi.
C'est vrai, ça te correspond.
Surtout que moi, je lis souvent les astrologies où ils prennent en compte ton rising sign, genre ton ascendant. Ouais, ton ascendant et ta lune.
C'est hyper important. Oui, c'est le thème astral.
Voilà, genre moi, quand je regarde les trois ensemble, c'est là que je vois, ok, c'est tout à fait moi.
C'est fou, ça, quand même.
Ouais.
J'arrive pas à donner des explications encore.
Mais pour moi, c'est logique parce que je me dis, si la Lune, elle peut contrôler l'océan et les montées d'eau, pourquoi elle n'aurait pas un effet sur nous et comment on réagit? On n'est que de l'énergie.
C'est vrai, c'est bien intéressant.
Donc pour moi, j'y crois, mais j'y crois pas forcément, genre les trucs rapides dans les newspapers, tu sais, dans les journaux, où ils te disent vite fait, genre cette semaine.
Oui, c'est Marie-Carine qui écrit un truc.
Ouais, voilà.
Voilà.
Ça, j'y crois pas trop, mais dans les thèmes astrales, genre en profondeur, j'y crois vraiment.
Ouais, je trouve ça hyper intéressant aussi. En fait, à la base, j'y croyais pas trop. C'est une pote qui m'a mis là-dedans, qui a fait vas-y, toi, t'es cancer, ascendant cancer, allez hop. Et en fait, c'est hyper impressionnant parce que généralement, ça correspond.
Ouais.
Mais j'adore ton explication de la lune là.
Mmh.
C'est, écoute, peut-être qu'un jour, il y aura une thèse scientifique.
Ouais, on va voir.
sur l'astrologie.
Ouais.
Il y aura une explication scientifique, on croise les doigts, ce sera trop bien.
Je sais pas s'il y a trop de bullshit en fait, ça truc. Genre, en vrai, pour moi, le bullshit, c'est comme je te dis des petits dans les journaux où ils te disent, genre, ouais, aujourd'hui, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Alors que non.
Oui, alors que, ben non. Ni aujourd'hui, ni ce mois-ci, d'ailleurs. Mais toi,
année.
C'est vraiment les astrologues, ça t'intéresse.
Ouais, j'aime trop. Ouais.
Ok, trop bien.
J'en pioche une autre ?
Ouais, vas-y, si tu veux.
Sororité, féminisme, santé mentale. Ces sujets seront abordés dans ton projet avec Doc Martens. À quel moment ces mots ont pris leur sens à tes yeux ?
On revient au projet, du coup.
Ouais, on revient au projet, donc... J'ai l'impression que c'est vraiment assez récent. Pourtant, le féminisme, je pense que j'étais toujours un peu dedans, mais la santé mentale, j'étais pas du tout dedans avant les trois dernières années.
Avant que ça te touche personnellement.
Ouais, exactement. Parce que j'étais trop... j'avais trop adopté cette idée que, on travaille dur, on peut contrôler comment on se sent. Je sais pas, j'étais vraiment un peu out of touch avec mes émotions.
Ouais.
J'étais un peu, je sais pas, je...
Fallait pas trop y toucher.
Ouais, j'étais juste trop concentrée sur le but, là où je voulais aller dans la vie. Et je me posais pas des questions genre comment tu vas, est-ce que tu te sens bien, est-ce que même t'es heureuse. Genre pour moi, il y avait pas de valeur dans ça, c'était juste like, t'as une raison de vivre et faut que tu fasses ça. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer.
Et pas d'excuses pour le reste, quoi.
Voilà, exactement.
Et le féminisme là-dedans, c'est venu comment? C'est venu avant? C'est venu...
Pour moi, le féminisme, je veux dire qu'en fait, d'un côté, c'est venu aussi un peu avec... en tout cas, je vais relier un peu sororité et féminisme, parce que j'avais écrit une chanson qui s'appelait Woman, et je me rappelle, j'avais vraiment eu une distanciation avec mon être en tant que femme. Je sais pas comment dire. Je sais pas vraiment. Ça va dire pour moi d'expliquer ça en français, mais ce que je veux dire, c'était que j'ai jamais senti que j'étais genre une femme comme les autres femmes.
Ok.
Tu vois, genre dans ma façon de m'exprimer, ou genre j'ai grandi dans une famille où c'était vraiment genre ah t'es une fille, tu dois te comporter comme ça, et je me sentais pas vraiment dans ça. Et donc j'étais un peu genre tomboy, et j'avais une espèce de rébellion contre être femme, tu vois. Mais pas dans le sens où je considère que je suis pas une femme. Je sais que j'étais une femme, mais pas dans le sens que la société dit que je dois me comporter ou que je dois agir. Et donc, en fait, j'avais écrit une chanson qui parlait des femmes dans ma vie, ma mère, ma grand-mère, des femmes que j'admire beaucoup. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment commencé à voir que ben, j'avais pas beaucoup d'amis femmes dans ma vie, en fait. Je traînais beaucoup avec genre, beaucoup de garçons. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire que la sorority, et c'est très, très, très important. C'est important de... Et depuis que j'ai fait un effort de plus concentrer mes amitiés avec d'autres femmes, je me sens vraiment mieux, parce que je trouve que vraiment, on s'écoute bien et on se sent moins seul. Et je sais pas, il y a beaucoup d'amour à partager. Donc là, ça a commencé à devenir de plus en plus fort. Mais pour moi, le féminisme en lui-même, c'est plus un féminisme... intersectional.
Intersectionnel.
Yeah, intersectionnel, où on regarde vraiment tout, enfin plus que juste le féminisme, genre en tant que la femme, voilà.
Que le féminisme est lié à la lutte, voilà. Par exemple, pour la communauté LGBT,
exactement.
Pour la pauvreté, pour la lutte des Noirs, des
exactement.
Droits des Noirs, etc.
Exactement. Et moi, je viens plus de ça, parce que vu que j'ai vraiment une expérience compliquée, genre raciale,
ouais.
Parce que genre, en quittant la France, et puis arriver en Irlande, et puis après aller au Sénégal, et puis soudainement, genre la blanche, genre la française, puis après aller aux États-Unis, et puis enfin à chaque fois j'ai vraiment beaucoup vu ma vie à travers le regard de être une femme noire, mais le noir était très important dans femme noire,
dans ton identité en fait, et la manière dont on te percevait,
voilà,
quoi.
Exactement. Donc maintenant ça, voilà, je vois vraiment le féminisme, il faut le regarder d'une façon intersectionnelle, et malheureusement j'ai pas le langage en français pour bien m'exprimer, mais c'est un des sujets que j'ai exploré avec Charlotte Abramoff,
ouais.
Qui elle comprend ça très bien.
Mais c'est, tu l'expliques très bien, t'inquiète pas. C'est,
merci.
C'est super intéressant, et c'est vrai que c'est toujours compliqué de lutter. Mais,
ouais.
Mais
il faut, mais le truc, c'est juste,
il
faut juste qu'on ait plus de conversations, je pense, entre nous, et qu'on crée plus d'espace pour les histoires de chaque. On a tous des expériences différentes, et en fait, de plus on s'écoute, je pense, de plus on peut avoir de la compassion
et puis sentir qu'on n'est pas seul aussi.
Et sentir qu'on n'est pas
seul,
exactement.
Depuis que la parole se libère un peu plus, elle continuera à se libérer, on l'espère.
Voilà.
C'est les femmes savent aussi, les femmes noires, les femmes blanches, toutes les femmes.
Exactement.
Et les femmes pauvres, etc. savent,
ouais,
qu'elles sont pas seules dans leur lutte. Donc
ouais.
C'est important.
Absolument.
Et ton projet va aider à ça. Donc c'est,
ouais,
ça qui est formidable.
Ouais, exactement, exactement.
C'est ça qui est formidable.
Bon, moi je vais prendre un autre schtroumpf.
Vas-y. Alors là, tu choisis. Hein,
Maintenant, j'ai répondu aux questions les plus difficiles. Non, je mérite un cadeau.
Mais bien sûr, tu peux prendre tout le pot si tu veux, il n'y a aucun problème.
Faut pas me le proposer, parce que je vais vraiment le prendre.
Et le pot est déjà vide. Tu peux piocher une autre question si tu veux.
Qu'est-ce qui t'a sauvé quand tu as souffert d'isolement, que ta propre santé mentale ne se portait pas bien? Waouh. Je pense déjà la musique. Parce que maintenant j'ai compris que quand je vis quelque chose de vraiment difficile, si j'écris pas une chanson dessus, j'arrive pas vraiment à passer à autre chose.
Ouais, l'écriture, c'est salvateur, quoi.
Ouais, c'est ce que je viens d'apprendre sur moi-même récemment. Honnêtement, je pense que c'est aussi mon cercle d'amis, la famille, les gens qui me disent, mais je vois que t'es pas bien. Parce que des fois, on se rend même pas compte. En fait, on s'isole et puis on s'enferme. On parle pas. Et vraiment, surtout ma grand-mère, elle m'a vraiment fait remarquer. Elle me dit, mais t'es pas la même personne. Tu t'intéresses à rien. Genre, tu parles pas aux gens. T'es genre comme si une partie de moi qui était partie. Et avec toi, souvent, et même mes amis qui me disaient... juste, j'avais plus le sourire, quoi. Je sais pas. J'étais quelqu'un de différent. Donc, avoir des gens proches de nous qui peuvent... nous dire, genre, il y a quelque chose qui va pas et je le sais, c'est important.
Oui, qui perçoivent en fait le,
oui,
mal-être,
qui
parce
voilà.
Que souvent c'est invisible.
Voilà. Il y a des gens, ils sont très forts aussi pour couvrir un peu leurs émotions, et puis on se dit, bon, je vais pas les embêter, ils ont l'air de pas avoir envie de parler, blablabla, mais en fait c'est souvent là qu'il faut des fois peut-être juste pousser un tout petit peu pour dire... Il y a quelqu'un même de récemment qui m'a envoyé un message, je sais pas, j'ai répondu un truc, peut-être que c'était un peu bizarre ce que j'ai répondu ou c'était pas clair. Puis ils ont dit, oh, do you want to talk about it? Et c'était quelqu'un que je connaissais même, enfin, que je connaissais pas à ce moment-là. And I thought, wow, that's so nice that they just. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux en parler? Et puis donc, je me suis dit, wow, c'est tellement gentil qu'il m'ait tendu la main. Et puis depuis, en fait, on est devenus genre super amis. C'est un artiste que j'admirais, mais on se connaissait pas. Mais juste que quelqu'un puisse prendre l'initiative quand ils se rendent compte que ah, il y a quelque chose qui cloche là. Et en fait, au lieu de se dire ben, je vais l'ignorer et faire une blague ou passer à autre chose, ben, de dire ah, mais est-ce que tu veux en parler? Des fois, c'est bien de parler même aux gens qu'on ne connaît pas parce qu'en fait, il y a moins de. Il n'y a pas de jugement.
Il y a moins de risques aussi que ça se réentende.
Exactement. Ouais. Voilà.
Être attentif, en fait, finalement. Ouais, aux gens. C'est ça qui t'a permis de rebondir et de bien rebondir.
Ouais, exactement.
Trop cool. Tu peux piocher une autre question si tu veux.
Ok. J'adore ces questions.
C'est vrai? Trop bien.
Je te jure, j'adore. Ta plus belle première fois? Première fois de n'importe quoi?
N'importe laquelle.
Ouais, j'attends que quelqu'un sorte du mur et qu'il me donne la réponse.
Je peux faire beaucoup de choses, mais ça, je suis pas sûre.
Mais tu m'as grave aidé tout à l'heure avec la boîte. Donc là, t'as ma plus belle première fois. Bon, je sais pas. C'est peut-être pas une bonne réponse, mais je vais dire que ma première fois au Brésil.
Ouais.
Je suis partie au Brésil l'année dernière, genre juste avant le Covid. Et c'était genre magique. Mon voyage était genre trop, trop, trop magique. Et je pense que c'est devenu très précieux parce que dès que je suis arrivée, j'ai posé mes pieds sur le sol européen. Et là, il y avait le confinement.
Ah ouais,
donc finalement, en fait, mon dernier souvenir du monde réel ou avant Covid, c'était carnaval brésilien et c'était trop ouf. Et bon, voilà, je sais que c'est peut-être pas la meilleure réponse.
Il n'y a pas de bonne réponse, c'est trop bien.
Mais pour moi, c'était trop un beau souvenir. Et en fait, ce que j'ai trop aimé là-bas, c'était qu'on ressent vraiment la joie des gens. Genre, c'est vraiment des gens qui savent vivre. Et j'ai vraiment gardé ça avec moi et c'est... J'y pense souvent, genre quand je me sens un peu triste, je pense à ben, que j'ai eu cette chance de pouvoir aller au Brésil avant tout ça, quoi. Et que maintenant, ben, je sais pas. Et j'aime trop voyager, vu que je suis voyageuse.
C'est ça.
Et en plus, c'était un pays où jamais je pensais que j'irais là-bas. Je sais pas pourquoi, c'était trop loin dans ma tête.
Et pourtant, t'en as fait des voyages.
Ouais, mais je sais pas pourquoi le Brésil, pour moi, c'était autre part, quoi. C'était une autre planète. Mais quand j'ai fait une résidence, en fait, c'est à Londres, ils m'ont envoyé là-bas pour faire un mois. Et donc, j'ai fait un mois de juste un mois au Brésil, travailler sur de la musique. Oui, une résidence artistique. Et je me dis, franchement, ça aurait été 4 semaines plus tard et ça aurait été annulé, quoi. Donc, j'ai eu trop de chance et je remercie tous les jours l'univers.
Fou d'avoir connu ce voyage.
Ouais.
Et t'étais accompagnée, du coup, des gens qui travaillent avec toi?
Moi, je suis partie toute seule, mais il y avait donc des correspondants. Ou je sais pas, des gens qui des gens qui devaient s'occuper de moi là-bas, quoi.
Trop top. C'était trop cool. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu as aussi parlé des quartiers, du coup, dont tu te souvenais. Il y a beaucoup dans ce que tu dis, quelque chose un peu lié aux énergies des villes. Tu m'as dit, là, c'est le carnaval et tout, t'es connecté aux villes par ce qu'elles dégagent,
ouais,
en fait.
Ouais, exactement. Genre, des fois, on arrive quelque part et on ressent, il y a quelque chose qui vibre, je sais pas. Et j'ai ressenti ça tout à fait, parce que j'étais à Salvador, Bahia. Et c'était, je sais pas, c'est juste tu marches, et même si t'es seule et que tu connais personne, ben en fait tu te sens protégée. Je sais que protégée c'est bizarre parce que ben, Brésil c'est pas l'endroit genre le plus safe dans le monde, mais, mais en fait tu te sens juste bien, tu vois, et tu te sens pas seule. Il y a, je sais pas, genre des fois, quand je vivais à New York par exemple, j'allais à l'université, c'était dans le Lower Manhattan, et en fait pendant un moment je vivais en internat à l'école. Et en fait, là, tu peux te sentir seule. C'est possible de marcher dans le cœur de New York et se sentir seule. Mais en fait, quand tu vas à Harlem, par exemple, tu marches et tu te sens pas seule. Même si tu connais personne, il y a juste une espèce d'énergie où, en fait, tout le monde, les gens, ils te sourient et je sais pas.
Ils sont attentifs.
Il y a une communauté, en fait.
C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais, on te voit. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Oui, t'es pas invisible, en fait, quand tu marches.
On
se voit. Et c'est quelque chose que j'adore aussi en France, parce qu'en France, en vrai, quand on croise quelqu'un, on dit bonjour.
Sauf à Paris.
Si je rentre dans l'immeuble où il y a mon Airbnb, ben, que je croise quelqu'un dans la cage d'escalier, ils vont me dire bonjour.
Ah d'accord. Et ça, c'est
alors qu'à Londres, non. Genre, à Londres, on peut être dans l'ascenseur avec quelqu'un pendant 40 étages et on ne va jamais se parler, on ne va même pas se calculer, quoi.
Ok.
Donc ça, c'est un truc que j'aime bien en France.
Et au Brésil, du coup.
Et au Brésil.
Bah, c'est beau. Ce voilà. On te voit. J'aime beaucoup cette phrase. C'est une belle fin d'interview.
Ouais.
Et merci beaucoup pour ta présence ici.
Merci à toi, c'était super.
C'était hyper intéressant et t'as un parcours de folie qu'on va bien suivre. Et j'invite vraiment tout le monde, toutes nos auditrices, tous nos auditeurs à aller voir ce live. Le fameux 21 avril 2021. Oui. Et puis tes projets à venir aussi, oui. Puisque va y en avoir, apparemment.
Ouais.
On va passer à la toute dernière étape du podcast. Mm-hmm. Donc, moi, je vais quitter la salle.
Okay.
Je vais te laisser seule face au micro. Et tu vas devoir répondre à la question suivante. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui n'écouterait jamais ce podcast ? Tu lui adresses une bouteille à la mer, un petit message.
Je vais réfléchir.
Avec plaisir.
On se voit demain.
C'est ça. Mais du coup, à demain. Merci beaucoup d'être venue, Anaïs. C'était un
merci
plaisir.
Merci à toi. C'est trop cool. Merci beaucoup. J'aimerais te dire que dans la vie, on a toujours un choix et on peut créer sa réalité. Il suffit juste d'avoir assez de foi et peut-être d'imagination pour changer les choses et pour commencer à voir le monde d'une nouvelle façon. Et donc, je t'encourage à te poser plus de questions et à vraiment rêver et de commencer par les petits pas. Voilà. Ça serait mon message pour toi.
Et voilà, c'est déjà fini. Oui, je sais, c'est bien trop court. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast. Si t'as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama, laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, dis-nous quelle personnalité toi tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici. Ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama. Alors, à la semaine prochaine.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.